Comment est-il possible que quelqu'un qui payait si peu de mine, lui et ses deux acolytes, se retrouve à faire des choses aussi horribles? Et puis la réponse, elle est de un peu plus d'un an d'État islamique, hein, en Syrie. Ça transforme un homme, très certainement. C'était pas le même au retour qu'au départ.
Comment se repérer lorsque l'on n'est pas journaliste spécialisé dans le dédale des figures qui composent le panthéon mortifère du 13 novembre ? Labyrinthe de noms, de visages, de parcours, la presse va les égrener tout au long des 9 mois que va durer leur procès. Le grand reporter au Monde, Soren Silo, a retracé l'itinéraire de ces hommes devenus les bras armés de Daesh. Il a préféré ne pas se glisser dans la tête des tueurs, mais dresser leur portrait clinique au travers de ce que les services de police et de renseignement, et au final la justice, en a su. L'occasion aussi de reconstituer ce qu'ont vécu ces hommes et ces femmes lancés dans la traque des terroristes. Au final, une bande dessinée puissante et limpide, une dramaturgie aiguë, un dessin troublant de réalisme mais aussi d'esthétisme, des personnages jamais magnifiés. Pourtant, La Cellule, c'est son titre, a le mérite de mettre à votre portée, à notre portée, à tous, je m'inclus hein, dans ce public qui a parfois du mal à s'y repérer, une histoire extraordinairement complexe.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Soren Silo.
Bonjour Sonia.
Soyez le bienvenu. La Cellule, enquête sur les attentats du 13 novembre 2015. Je le montre, la couverture de ce livre pour ceux qui nous suivent en vidéo. C'est sorti aux arènes bande dessinée. C'est un livre qu'on a beaucoup aimé. Nicolas Demorand en a parlé ce matin aussi dans la matinale. Vous pourriez peut-être nous présenter votre co-auteur, Kevin Jackson.
Alors Kevin Jackson est chercheur spécialisé dans le terrorisme. Il travaille au Centre d'analyse du terrorisme, le CAT. C'est par ailleurs devenu un ami depuis quelques années. Ouais. Et c'est un geek du djihad, c'est un grand expert du djihad depuis Al-Qaïda jusqu'à l'État islamique. Il a été touché par le virus du djihad. Enfin, il m'avait raconté ça parce qu'il a assisté au 11 septembre, il avait 12 ans, il est assez jeune, dans son canapé. Et il a été marqué, sa rétine a été imprégnée par les deux tours qui se sont effondrées. À partir de là, il a nourri une forme de fascination et d'obsession pour comprendre les ressorts de ce phénomène qui est devenu un peu le phénomène du siècle, l'islamisme radical.
Voilà, alors évidemment on fait de la radio, c'est pas évident de faire vivre des dessins à la radio. Hommage néanmoins à Nicolas Otero parce que c'est une BD en noir et blanc et pourtant la couleur surgit souvent, toujours la même, le orange. Comment et pourquoi ce parti pris? Ils sont très beaux ces dessins, je vais vous le dire, ils sont vraiment très beaux.
Alors le parti pris a été de faire c'est une enquête graphique, selon moi, d'avoir un traitement ultra réaliste. C'est un travail d'après photo pour l'essentiel. Alors Nicolas Otero a aussi travaillé avec des planches plus graphiques, plus impressionnistes, on va dire. Mais l'essentiel est un travail d'après document, d'après photo. C'est-à-dire chaque immeuble, c'est l'immeuble où les terroristes étaient. Chaque visage ressort des fiches d'identité des terroristes. Donc en effet, il y a une prédominance du noir et blanc, quelque chose d'assez sobre. Mm-hmm. Et l'idée a été d'apporter des touches de couleur, un peu l'aquarelle, un petit pastel japonaise. Pour marquer à la fois les lieux, c'est-à-dire pour aider le lecteur à s'y repérer, c'est-à-dire on est plus dans du beige sable en Syrie, on est dans du bleu-gris, un ton un peu froid d'excellente enquête policière en France ou en Belgique. Voilà, c'était des repères et d'avoir des touches de couleur aussi sur les personnages, parce que cette cellule terroriste comporte une trentaine d'acteurs. Donc pour aider aussi le lecteur à s'y retrouver, l'idée était de, voilà, Abaoud est souvent marqué de rouge, quoi. Il incarne un peu la menace, comme ça, qui traverse tout ce récit. Et donc voilà, c'était aussi un repère.
Et alors,
pour
une fois de temps en temps, font irruption dans le livre des photos bien réelles, probablement extraites des dossiers que vous avez pu consulter, Soren Silo. Donc la photo bien réelle vient s'incruster dans la planche dessinée, elles sont accolées au dessin comme pour montrer que le dessin reconstitue, mais alors vraiment à la virgule près, le réel. Photo de Mohamed Abrini dans les rues de Londres, photo d'Abaoud à son arrivée à Chios, photo des deux assassins dans le métro parisien, des assassins dans le métro parisien après l'attentat. C'est une image de télésurveillance de la RATP, on voit les baskets rouges, on voit leur visage hilar, on reconnaît même la station de métro quand on est comme moi parisien. Cette confrontation avec le réel est extrêmement troublante.
Oui,
elle est glaçante même.
Oui, bah notamment c'est vrai que les images d'Abaoud dans le métro, on est on est en plein massacre du Bataclan. C'est même pas après les attentats, c'est pendant les attentats. Et en effet, la vidéosurveillance du métro le montre vêtu de baskets orange. Et ce qui dit beaucoup de choses du personnage, c'est qu'il voulait être vu. C'est parce qu'on met pas des baskets orange quand on veut être invisible. Et donc, ouais, c'est glaçant. Et on le voit tout sourire avec un passant. Et ça, c'est d'ailleurs un motif qu'on a voulu garder dans ce récit. C'est Abaoud sourit tout le temps. En vidéo, en photo. Et donc, on voulait garder, parce qu'il prend plaisir à ce qu'il fait, en fait. Et donc, c'est un personnage un peu à part dans cette cellule, parce qu'il a une dimension un peu psychopathique. C'est quelqu'un qui jouit de tuer.
Vous voulez bien nous replanter ce personnage?
Oui, alors Abaoud est un des acteurs principaux des attentats du 13 novembre. En gros, c'est le coordinateur des 10 commandos qui ont ensanglanté Paris cette nuit-là. C'est lui qui les coordonnait. Ce n'est pas le commanditaire des attentats du 13 novembre, parce qu'il lui-même répondait à des chefs, à des émirs en Syrie, mais c'est le coordinateur opérationnel de cette nuit d'horreur. Et Abaoud était un personnage connu de longue date des services de renseignement, et d'ailleurs c'est ce que retrace en fait cette enquête en BD. On remonte toute l'année avant les attentats. Abaoud avait déjà commandité un projet d'attentat qui avait été déjoué à Verviers en janvier 2015, donc près d'un an avant le 13 novembre. Et dès l'été 2015, les services de renseignement savent qu'Abaoud veut envoyer des dizaines de commandos en Europe pour frapper
Abaoud
la France.
Est mort.
Et Abaoud a été tué, en effet, à Saint-Denis, 3 jours après les attentats du 13 novembre.
Alors, je vais vous faire écouter une archive, une info. C'était au moment du procès du Thalys, en août, qui avait eu lieu, l'attaque du Thalys, du train, avait eu lieu en août 2015. Écoutez bien le nom des complices qui y sont cités.
4 hommes sur le banc des accusés, mais l'attention va se focaliser sur une seule personne, Ayoub Al-Kazani. C'est lui, le tireur, celui qui avait pris ce Thalys, qui était monté en gare de Bruxelles. Parmi les autres accusés, il y a des complices, il y a Bilal Chatra et Mohamed Bakli. Eux sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.
Bilal Chatra, vous avez choisi, et j'aimerais bien que vous justifiez ce choix, d'ouvrir l'enquête à travers ce curieux personnage qui en est sans en être, qui sort, qui entre de l'histoire, qui sort de la cellule, qui entre dans la cellule au fur et à mesure du livre.
Oui, alors on a d'abord choisi de prendre ce personnage qui est assez méconnu finalement, qui est très peu connu du grand public, comme fil conducteur, parce que d'abord sur le plan de l'enquête, c'est grâce à lui que les enquêteurs ont pu reconstituer le puzzle de l'infiltration des terroristes, et notamment d'Abaoud, en Europe. Jusque-là, plusieurs mois après les attentats de Paris, on ne savait toujours pas quand Abaoud était rentré en Europe, ni comment. Et c'est l'arrestation un peu fortuite de ce jeune Algérien en Allemagne, pour des faits de violence et de vol au début. Et petit à petit, la CIA transmet des informations aux services allemands, et montre que ce personnage est en lien avec Abaoud sur Facebook. Et donc, ça a été le point de départ de la reconstitution du puzzle a posteriori, de la fabrication de cette cellule et de son infiltration en Europe.
C'est d'autant plus intéressant qu'il est une sorte de poisson pilote, qu'il est un guide, qu'il est un passeur, il ouvre la voie. Et donc ça permet aussi de retracer tout un parcours à travers l'Europe et à travers le Moyen-Orient.
Oui, c'est ça, parce que ce récit, en fait, ça part de Syrie, transite vers les pays de l'Est, la Belgique, Paris. Enfin, on navigue dans plusieurs zones géographiques, parce que c'est le propre de cette cellule.
Et c'est le propre de ce gamin algérien, c'est qu'il traverse toutes les frontières.
Oui, c'est un poisson pilote, en effet. Et puis, il est intéressant parce qu'il est porteur d'une forme d'ambiguïté. C'est qu'au début, lui part en Turquie parce qu'il veut migrer en Europe. Ça, c'est son rêve depuis tout petit. Et il fait une rencontre malheureuse dans un camp de migrants à Edirne, en Turquie. Il rencontre Abdelhamid Abaoud, le futur coordinateur des attentats de Paris, qui le retourne, qui le convainc déjà de l'aider à s'infiltrer en Europe, puis de partir en Syrie, se former, etc. Et en Syrie, d'ailleurs, il va faire un mois de prison en Syrie parce qu'il est envoyé au front et en fait, il veut pas combattre. Enfin voilà. Et donc, lui, il permettait d'incarner un peu la jeune recrue qui a un peu traversé de contradictions, même s'il reste convaincu par la cause. Mais à un moment, il refusera de passer à l'acte et de participer à un attentat directement.
Alors, justement, tous vos personnages ne sont pas traités de la même manière parce qu'ils n'ont pas exactement le même parcours psychique, psychologique et idéologique. Je vous fais écouter brièvement le testament audio d'un des deux frères Al-Bakraoui. Vous allez nous raconter précisément qui ils sont. Ce sont les logisticiens des attentats du 13 novembre. Ils sont morts ensuite en kamikaze à l'aéroport de Bruxelles. Ce testament audio, il a été retrouvé sur un ordinateur jeté dans une poubelle. Il a été diffusé plus tard à la radio belge.
Je m'appelle Al-Bakraoui Ibrahim. Nous sommes au mois de mars 2016. Je parle librement. Je ne suis pas sous la contrainte ni sous le fait de stupéfiants ou de boissons alcoolisées. Je voudrais faire une déclaration publique concernant Bakali Mohamed. La maison qui ont été louées a ouvert.
Voilà, c'est là aussi extrêmement troublant d'écouter la véracité, l'authenticité, la réalité de ces gens qui ont bien existé. Ce que je trouve intéressant, c'est que les Bakraouis, vous les définissez comme des délinquants extrêmement violents. Et on voit bien que cette cellule réunit des personnages et des figures qui ne sont pas du tout au même stade, finalement.
Oui,
de
oui,
leur parcours terroriste.
C'est une cellule assez composite dans les profils qui la composent, mais c'est notamment ce qu'on retrouve sur les départs en Syrie, sur les gens qui ont été séduits par l'État islamique, on trouve de tout. Hein. On trouve des gens en situation d'échec social, professionnel en France, on trouve des gens très éduqués. Enfin voilà, c'est une idéologie qui arrive à attraper dans toutes les strates de la population. Cette cellule est quand même essentiellement composée d'anciens délinquants, mais à des stades différents. Les frères El Bakraoui, en effet, sont hyper violents. Ils ont tiré sur des policiers, ils ont été condamnés pour ça. C'était des braqueurs extrêmement violents. On trouve aussi des petits délinquants. Enfin, Salah Abdeslam n'était pas du tout un caïd, c'était vraiment un petit mec de quartier qui a été vaguement arrêté pour vol, à la tire, etc. Mais lui qui n'était pas du tout gradé dans la sphère du grand banditisme. Donc en effet, il y a tout un tas de profils et il y a aussi quelques personnages comme Mohamed Bakali qui lui n'a jamais été condamné.
C'est ça. Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire à travers le travail des services? Pourquoi ne pas avoir choisi de se glisser dans la tête du tueur, dans la peau du tueur, hein? Parfois on reconstitue des faits divers de cette manière-là. Assez contestable probablement quand on est journaliste et point romancier.
Ouais. Déjà l'idée c'est parce que c'est un travail journalistique et que je ne suis pas dans la tête du tueur, donc je ne pouvais pas inventer ce qui s'y passait. Moi, tout ce que j'ai à disposition c'est une enquête judiciaire qui est remarquable, qui est titanesque, qui fait sans doute plusieurs centaines de milliers de pages. C'est d'autres dossiers judiciaires, c'est des rapports des services de renseignement, des rapports confidentiels belges.
Donc
c'est
des écoutes
téléphoniques, des interrogatoires d'accusés. Donc tout ça c'est des faits objectifs, voilà, sur lesquels on s'est appuyé pour construire ce récit. Ici. Et l'idée était de réduire la part d'invention au minimum. Enfin, il y a parfois, voilà, on a construit le récit à partir de faits établis matériels et après il a fallu en effet créer des passerelles. Donc il y a une petite part de reconstitution, mais qu'on a, encore une fois, même les reconstitutions sont réalisées à partir de ce qu'on sait, c'est-à-dire à partir de témoignages indirects, voilà, où on imagine ce qui a pu se dire à ce moment-là précisément, même si on n'y était pas.
Il vous a fallu néanmoins inventer un personnage, Charles.
Voilà, et donc... En fait, ce récit sur un an raconte d'un côté les faits, c'est-à-dire comment cette cellule terroriste s'est constituée, comment l'État islamique pendant un an a constitué cette cellule pour frapper la France, et de l'autre côté les ratés, c'est-à-dire ce que savaient les services de renseignement en temps réel, puisqu'il y a un côté jour après jour, presque heure par heure, ce que savaient les services de renseignement pour raconter ça. En effet, on a recouru à un personnage fictif qu'on a appelé Charles, enquêteur à la DGSI, et qui en fait incarne l'ensemble des services de renseignement, y compris la justice, en fait, à travers un seul personnage pour simplifier.
Ce qui est intéressant aussi, parce que d'une certaine manière, vous faites aussi le travail d'humaniser ces institutions dont on égrène beaucoup les acronymes, et d'ailleurs on s'y perd parfois, et de montrer que ça a été une traque, ça a été quelque chose de physiquement et de psychologiquement éprouvant aussi pour ceux qui les ont traqués.
Extrêmement éprouvant, parce qu'on s'est aussi appuyé sur des entretiens, et moi en discutant avec notamment des gens de la DGSI, je sais que dans les mois qui précédaient le 13 novembre, la menace était tellement forte, c'est-à-dire les services savaient qu'Abaoud voulait frapper la France, et ils étaient tellement angoissés qu'il y avait des agents qui vomissaient en arrivant au bureau, tellement ils étaient stressés, c'est-à-dire qu'ils sentaient l'inéluctable arriver et ils sentaient qu'ils n'avaient pas les moyens de l'empêcher, quoi, qu'il y avait quelque chose vraiment d'inéluctable dans la tragédie qui s'annonçait. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs signaux d'alerte qui étaient décisifs. Il y a eu une interview de l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, je crois en octobre.
Qu'on a entendu juste au début du générique.
Voilà, et qu'on reproduit dans la bande dessinée, parce que l'idée aussi de raconter cette année en France, c'est, il y a à la fois l'enquête, mais il y a aussi, on reproduit des interviews de Le Drian sur Europe 1, pardon.
Une
conférence de presse.
Nos confrères ont fait d'excellents boulots sur RTL, sur Europe 1 et à la télévision aussi. Ça a été quand même quelque chose qui a mobilisé toutes les rédactions françaises. Je vais vous faire écouter un extrait pour le coup d'info belge qui revient sur les ratés de la police belge.
Nos services nous ont indiqué qu'ils n'étaient pas du tout exclus qu'ils soient présents là et que les heures entre lesquelles on ne peut pas faire une perquisition, c'est-à-dire 9h du soir et 5h du matin, ne nous ont pas nécessairement aidés à retrouver Salah Abdeslam à ce moment-là.
La loi belge est très claire. Entre 21h et 5h du matin, la police ne peut pas perquisitionner. Seules exceptions, les flagrants délits et les incendies. Le terrorisme n'est pas prévu dans le texte.
Soren Silo est mon invité, grand reporter au Monde et auteur de La Cellule, co-auteur de La Cellule, enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 paru aux Arènes. Soren Silo, évidemment, les ratés de la police belge, ça va être au cœur aussi du procès qui commence demain après-midi à Paris. Il y a un choix de mise en scène récurrent, une sorte de tragique, de répétition, me disiez-vous avant qu'on commence cette interview, parce que j'ai été très frappée, c'est que tous vos personnages, en tout cas plusieurs de ces personnages, sont interrogés par des services de renseignement belges ou des services de police belges, et vous les représentez systématiquement, sortant, libre comme l'air, les mains dans les poches, jean, basket et l'air goguenard, passant toujours entre les mêmes voitures, dans la même rue, et rigolant en disant « je les ai bien eus ».
Oui, l'idée était de marquer, ce tragique de répétition, cette répétition de raté, c'est que quatre membres de cette cellule, notamment Salah Abdeslam, le dernier membre encore en vie des commandos du 13 novembre, qui sera le principal accusé au procès qui s'ouvre demain, mais également Mohamed Abrini, qui est suspecté d'être le 11e membre des commandos.
L'un des deux frères
Bakraoui et le frère de Salah Abdeslam, Brahim Abdeslam, qui s'est fait exploser. Bon, et ces quatre personnages ont été interrogés sous le régime de la garde à vue en Belgique parce qu'ils étaient soupçonnés de vouloir se rendre en Syrie ou d'en revenir. Dans le cas de Brahim Abdeslam, il venait de rentrer de Syrie. En Syrie, il avait tourné une vidéo de revendication qui sera diffusée après les attentats du 13 novembre. Donc la cellule terroriste était déjà en train de se constituer. Et ces quatre personnages vont sortir de garde à vue après un interrogatoire où ils diront non, j'étais en Turquie faire du tourisme. Et ils sortent en effet les mains dans les poches. Et donc voilà.
Qu'est-ce que c'est que les dossiers rouges ?
Alors les dossiers rouges, c'est une expression belge qui désigne en fait les dossiers terroristes considérés comme importants, mais que les services antiterroristes n'ont pas les moyens de traiter faute d'effectifs ou de moyens suffisants.
Et en effet, c'est quelque chose qui revient fréquemment dans cette enquête.
Malheureusement, les deux dossiers des frères Abdeslam ont été considérés comme des dossiers rouges, c'est-à-dire ils ont été rangés quelque part et personne n'a véritablement pu travailler dessus faute de moyens.
Non, mais vous racontez carrément qu'il y a un portable saisi, mis sous scellé, j'imagine. Et paumé sous des piles de paperasse, quoi.
Ouais, on est en février 2015, donc de longs mois avant les attentats. Brahim Abdeslam, au moment où il est interpellé et entendu en garde à vue, on saisit son téléphone portable, qui n'est pas analysé après son interrogatoire, qui sera analysé finalement plusieurs mois après son interrogatoire, mais de façon superficielle, les enquêteurs ne trouvent rien dedans. Et en fait, il sera perdu ensuite, et on ne le retrouvera qu'après les attentats du 13 novembre. Il sera de nouveau analysé avec un logiciel plus performant, et là, les enquêteurs découvrent que Brahim Abdeslam discutait avec Abdelhamid Abaou, qui était en Syrie, et les échanges, c'est tuer un maximum de porcs, rejoins-nous.
Vous reproduisez d'ailleurs
les captures d'écran.
Dernière question, Soren Silo, à vous qui êtes journaliste, et là forcément quand on fait une bande dessinée, on est toujours tenté de franchir des limites qu'on ne franchit pas quand on est journaliste. Vous avez utilisé du matériel de propagande, vous avez utilisé aussi des vidéos, vous venez d'en parler, qui ont été tournées sous le régime de l'État islamique. Comment on les utilise, comment on les reproduit pour justement pas se soumettre à leur code à eux.
Alors, de mémoire, je crois que la seule vidéo de propagande qu'on réutilise, c'est la celle qui a été tournée par les trois terroristes du Bataclan, qui en effet se filment en train d'égorger des soldats syriens. Et cette vidéo sera diffusée dans le message de revendication de l'État islamique après les attentats du 13 novembre. On l'a reproduit déjà pour montrer la barbarie ces gens-là, parce qu'en fait, c'est une vidéo où il y a très peu de morts. Enfin, on ne montre pas les attentats. Enfin, l'idée était vraiment de comprendre de façon clinique
Double page noire.
Voilà. Bon, en effet, le 13 novembre, c'est une double page noire. Donc, l'idée n'était pas du tout de rentrer dans l'immontrable. En fait, voilà comment dessiner des attentats. Enfin, personnellement, on n'avait pas tellement envie de se frotter à cette question, et c'était pas le propos de ce récit. Mais il fallait quand même montrer ce que faisaient ces gens-là, et notamment en Syrie. Et cette vidéo permet de le montrer. Il y a quelque chose de sanguinaire et de barbare.
Merci beaucoup, Soren Silo. La cellule paraît aux Arènes, bande dessinée. Je vous remercie. Et évidemment, nos auditeurs le savent, France Inter a mis beaucoup de moyens pour suivre le procès qui s'ouvre demain après-midi. Charlotte Piret et Sophie Parmentier qui y travaillent déjà depuis des semaines. Et d'ailleurs, vous avez tous leurs travaux, tous leurs articles, tous leurs reportages qui sont déjà disponibles sur franceinter.fr. Tout ce qui a précédé l'ouverture du procès. Merci beaucoup, Soren Silo. C'est la fin de l'émission. Bonjour, Ali Rebehi.